Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Cette émission est un hommage à la souffrance d'un peuple, d'une terre, habitée depuis plus d'un million d'années. Depuis le paléolithique, les périodes se sont succédées en Palestine, apportant chacune son lot de guerres mais aussi de progrès et d'échanges. La période romaine est liée à la vie du Christ et à sa mort, voulue et voté par les grands prêtres juifs. Vint ensuite la période byzantine, époque à laquelle la Palestine devint terre sainte par la volonté de l'empereur Constantin Ier au IVe siècle après Jésus-Christ. C'est à cette époque aussi que sont construites les basiliques du Saint-Sépulcre et de la Nativité, que se développe le pèlerinage en terre sainte, et aussi le monachisme. C'est une floraison culturelle et économique éblouissante. La population était en majorité chrétienne, aux côtés de laquelle se trouvaient des minorités juives, arabes pré-islamiques et samaritaines. Au 7e siècle, c'est un compagnon du prophète Mohammed, le calife Omar, qui, après avoir conquis l'Irak, la Perse, la Syrie, conquiert la Palestine. Je rappelle que Jérusalem est aussi la ville sainte des musulmans, puisque selon la tradition, l'archange Gabriel y fit transporter le prophète depuis la Mecque, puis lui fit faire son ascension, c'est-à-dire qu'il le monta aux cieux, puis le renvoya à la Mecque, grâce au Bourak, un cheval fantastique à tête d'homme, aile et queue de paon, et dont la patte se pose aussi loin que le regard peut porter. C'est l'épisode du voyage nocturne. Vint ensuite le temps des croisades, de 1096 à 1244, suivi de la domination ottomane jusqu'au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, dans les années 1880, les premiers sionistes s'installèrent en Palestine, où vivaient en paix les juifs, les chrétiens et les musulmans. Le sionisme est un mouvement visant à la formation d'un foyer national, né du premier manifeste juif appelant au rétablissement d'Israël. Manifeste écrit par Moses Hess, philosophe socialiste allemand, né en 1812 et mort en 1875. Proche de Marx et de Engels, fondateur d'un journal socialiste dont il devint le correspondant parisien, engagé pendant la révolution de 1848 et engagé contre le coup d'État du 2 décembre 1851, il est obligé de s'exiler. Lui, à qui l'on attribue la formule « la religion est l'opium du peuple », revint au judaïsme enseigné par son grand-père, reprit son nom juif Moses, c'est-à-dire Moïse, qu'il avait transformé en Moritz, et s'opposa à l'assimilationnisme. En 1866, il soutint un plan de colonisation de la Palestine. Mais ces théories, que l'on peut lire dans son ouvrage « Rome et Jérusalem », sont loin d'être populaires dans les milieux juifs de l'époque. En effet, les juifs français étaient pour la plupart des juifs assimilés, comme par exemple Marcel Proust, Charles Haas, Arthur Meyer, etc. C'est Théodore Herzl, considéré comme le fondateur du mouvement sioniste, qui le réhabilita en voyant en lui le précurseur du sionisme. C'est donc en 1897 que Herzl fonda le mouvement sioniste à Bâle lors du premier congrès sioniste. Qu'est-ce que ce congrès ? Eh bien, c'est l'institution supérieure de l'organisation sioniste mondiale, elle aussi créée lors de ce congrès de 1897. Et c'est elle qui décide de la politique économique sioniste. Après celui de 1945, ce congrès se réunira régulièrement à Jérusalem jusqu'en 1978. En août 2022, pour commémorer le 125e anniversaire de ce premier congrès sioniste, un millier de sionistes se sont réunis à Bâle. Herzl, jusqu'en 1895, ne se préoccupait nullement du sionisme et dans une critique théâtrale d'une pièce d'Alexandre Dumas fils, la femme de Claude, il écrit « Le bon juif Daniel veut retrouver sa patrie perdue et réunir à nouveau ses frères dispersés. Mais sincèrement, un tel juif doit savoir qu'il ne rendrait guère service aux siens en leur rendant leur patrie historique. Et si un jour les juifs y retournaient, ils s'apercevraient dès le lendemain qu'ils n'ont pas grand-chose à mettre en commun. Ils sont enracinés depuis de longs siècles en des patries nouvelles, dénationalisées, différenciées, et le peu de ressemblance qui les distingue encore ne tient qu'à l'oppression que partout ils ont dû subir. Après ce retournement de 1895, provoqué par la dégradation du capitaine Dreyfus, disent certains historiens, il publie l'État des Juifs, dans lequel l'on trouve les trois principes fondamentaux du sionisme. Existence spécifique du peuple juif, impossibilité d'assimilation, ce qui entraîne le troisième principe, création d'un État particulier qui prenne en charge le destin de ce peuple. Et le congrès de 1897 rajoutera un quatrième principe, le droit des Juifs à s'installer en Palestine, qui appartenait encore à l'Empire ottoman. Les rabbins n'étaient pas en accord avec la théorie sioniste et s'opposèrent vigoureusement à la tenue du premier congrès sioniste à Munich. C'est pour cette raison qu'Herzl se rendit à Bâle. Un petit intermède avec le Ranz des Vaches, dont Jean-Jacques Rousseau écrivait dans son dictionnaire de la musique. J'ai ajouté dans la même planche le célèbre Ranz des Vaches, cet air si chéri des Suisses qu'il fut défendu sous peine de mort de le jouer dans leurs troupes, parce qu'il faisait fondre en larmes, déserter ou mourir ceux qui l'entendaient, tant il excitait en eux l'ardent désir de revoir leur pays. On chercherait en vain dans cet air les accents énergiques capables de produire de si étonnants effets. Ces effets, qui n'ont aucun lieu sur les étrangers, ne viennent que de l'habitude, des souvenirs, de mille circonstances qui, retracées par cet air à ceux qui l'entendent, et leur rappelant leur pays, leurs anciens plaisirs, leur jeunesse et toute leur façon de vivre, excitent en eux un doute amer d'avoir perdu tout cela.
Les armes.
Oh,
partir de 1897, Théodore Herzl se consacra à son projet. La difficulté fut grande et Stefan Zweig s'en souvient dans son livre « Le monde d'hier ». Dès qu'il se mit à assigner à son action des buts précis dans l'espace réel, à nouer les forces en présence, il dut reconnaître combien son peuple était devenu disparate parmi les nations et les destinées les plus diverses. Ici, les juifs religieux, là, les libres penseurs, ici, les juifs socialistes, là, les capitalistes, tonnant les uns contre les autres dans toutes les langues et tous fort peu disposés à se soumettre à une autorité centrale. Théodore Herzl s'adressa donc aux financiers, comme le baron de Hirsch, et surtout aux Rothschild, qui dès 1882 avaient commencé à acheter des terres en Palestine. À propos de Rothschild, je voudrais vous lire un extrait de Rothschild et la question sociale de Jules Huret, ce journaliste natif de Boulogne-sur-Mer, connu pour ses interviews d'écrivains et ses enquêtes impartiales. Aujourd'hui oublié, il fut un journaliste célèbre et il est considéré comme le premier grand reporter de l'histoire. Jules Huret. On parle, dis-je, d'un malaise de la classe ouvrière qui se traduit par un courant socialiste devenant de plus en plus menaçant. Le baron de Rothschild. Je n'y crois pas, pour ma part, à ce mouvement ouvrier. Je suis sûr que les ouvriers, je parle en général, sont très satisfaits de leur sort, qu'ils ne se plaignent pas du tout et qu'ils ne s'occupent pas de ce que l'on appelle le socialisme. Certes, il y a des meneurs qui tâchent de faire le plus de bruit possible autour de leur personne, mais ces gens-là n'ont aucune prise, aucune influence sur les ouvriers honnêtes, raisonnables et travailleurs, car il faut distinguer entre les bons et les mauvais ouvriers. Ainsi, il est absolument faux, par exemple, que les bons ouvriers demandent la journée de 8 heures. Ceux qui la demandent, ce sont les paresseux et les incapables. Ils se tiennent ce raisonnement. Travailler 10 ou 12 heures par jour, d'abord c'est fatigant. Et puis il y en a qui sont moins paresseux et plus adroits que nous, qui produisent davantage dans le même espace de temps et qui par conséquent gagnent davantage. Tâchons de les forcer à travailler moins. Notre intérêt et notre paresse ne pourront qu'y gagner. C'est bien cela. Mais les autres, les pères de famille sérieux et rangés, n'entendent pas du tout qu'on les empêche de travailler le temps qu'ils jugent utile, à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Mais quand même, admettons qu'on les force tous à ne travailler que 8 heures. Savez-vous ce qu'ils feront, la majorité ? Eh bien, ils iront boire. Ils iront davantage au cabaret, voilà tout. Que voulez-vous qu'ils fassent ? Donc, c'est essentiellement à ce genre de financiers et aux chefs d'État des grandes puissances qu'Herzl s'adresse. En 1901, il rencontre le sultan ottoman Abdulhamid II afin d'échanger la Palestine contre l'effacement des dettes du sultan, cela avec le concours des banquiers juifs. Le sultan, amusé, lui répond « Les terres de Palestine appartiennent au peuple ottoman, pas à moi. Je n'en vendrai aucune portion. Elles ont été conquises par le sang du peuple ottoman. Si vous voulez les prendre, il faudra que vous nous déchiquetiez. » 2 ans plus tard, en 1903, il tente d'obtenir du gouvernement égyptien la région d'Al-Arish dans le nord du Sinaï, jouxtant la Palestine. Le gouvernement égyptien refuse pour la raison qu'il désire garder son territoire. Les Britanniques, avec qui il était en lien depuis 1902, lui proposent de s'implanter en Ouganda, qui était alors britannique. Le Congrès sioniste refuse, s'engageant à créer un État national juif en Palestine. Cette même année 1903, il ira jusqu'à proposer au ministre de l'Intérieur russe une alliance. « Soutenez mon projet, je vous débarrasse des révolutionnaires juifs. » Aussitôt, il soumet le projet à l'Union des socialistes russes, mais il croyait s'adresser au Bund. Le Bund, c'était l'Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, Pologne et Russie, qui prenait le droit des juifs à constituer une nationalité laïque de langue yiddish, et qui s'opposait évidemment au sionisme et au bolchevisme. Je disais donc qu'il leur propose de cesser leur lutte contre le gouvernement tsariste pendant 15 ans, en échange de l'appui du ministre de l'Intérieur. Je ne commente pas. Je crois qu'une telle attitude parle d'elle-même. Il va de soi que Théodore Herzl ne prend absolument pas en compte les Palestiniens, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou même juifs. Car en fait, ils méprisaient les juifs orientaux. En fait, ils voulaient, en bonne occidentale, la colonisation. D'ailleurs, voici ce qu'il a écrit. « C'est la volonté de Dieu que nous revenions sur la terre de nos pères. Nous devrons, ce faisant, représenter la civilisation occidentale et apporter l'hygiène, l'ordre et les coutumes pures de l'Occident dans ce bout d'Orient pestiféré et corrompu. C'est avec les Juifs un élément de la culture allemande qui va aborder les rivages orientaux de la Méditerranée. Il n'a rien à envier à tous les Thiers, Ferry et compagnie qui ont défendu becs et ongles la colonisation qui devait occidentaliser ces sauvages. Un petit intermède avec Serge Gainsbourg et sa chanson « Dieu est juif ».
Très petite, sais-tu que le Nazaréen n'avait rien, n'en a rien, et s'il est fils de Dieu, comme vous dites, alors...
Dieu est juif, je fais Dieu.
De l'israélite Karl Marx, un beau bouquin. Et le trio bolchevique, la troïka des purs, eh bien, tous trois de race sémite, je le prouverai tout à l'heure.
Une telle chanson ne doit pas vous étonner. En effet, je rappelle que Gainsbourg a écrit « Le sable et le soldat » en soutien à Tsahal pendant la guerre des Six Jours en juin 1967. Un hymne pour Tsahal. Je me demande si aujourd'hui les soldats de Tsahal la chantent toujours en bombardant Gaza.
Chut.
Herzl meurt en 1904, mais son idéologie est bien établie. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques, convaincus qu'il faut établir un foyer national pour les Juifs en Palestine, vont soutenir le nationalisme arabe et surtout la révolte arabe de 1916 à 1918 afin de vaincre les Turcs. La victoire finale se fera par la prise de Gaza et de Jérusalem. Le film « Laurence d'Arabie » de David Lean retrace magistralement cette période. En voici la bande-annonce. À la fameuse déclaration Balfour, sur laquelle s'est joué l'avenir de la Palestine. En 1917, une intervention américaine était nécessaire pour gagner la guerre. Or, les Alliés comptaient sur l'influence juive pour convaincre les USA, qui étaient alors peu favorables à l'envoi des troupes. Churchill, déjà lui, savait qu'il était utile de faire un pacte avec les sionistes. En voici son explication. L'année 1917 marqua peut-être la période la plus maussade et la plus sombre de la guerre. C'était l'époque où les éléments les plus résolus du gouvernement britannique cherchaient à enrôler toute influence capable de garder unis à la tâche les nations alliées. Le mouvement sioniste, dans le monde entier, était activement pro-allié et en particulier pro-britannique. Ce mouvement n'était nulle part plus visible qu'aux États-Unis, et nos espoirs reposaient dans une large mesure sur la part active que prendraient les États-Unis dans la lutte sanglante qui s'annonçait. Les talentueux dirigeants du mouvement sioniste et ses nombreuses ramifications exercèrent une influence appréciable sur l'opinion américaine, et cette influence était constamment en notre faveur. Les juifs, sionistes aussi bien que non sionistes, ont œuvré pour le succès de la Grande-Bretagne et pour une étroite coopération entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. La déclaration Balfour ne doit donc pas être regardée comme une promesse faite pour des motifs sentimentaux. C'était une mesure pratique prise dans l'intérêt d'une cause commune à un moment où cette cause ne pouvait se permettre de négliger aucun facteur d'assistance matérielle ou morale. Donc, la déclaration Balfour est une lettre adressée à Lionel Walter Rothschild, banquier bien connu et surtout financier du mouvement sioniste, en remerciement de sa promesse de faire entrer les USA en guerre. Cher Lord Rothschild, j'ai le grand plaisir de vous transmettre de la part du gouvernement de Sa Majesté la déclaration suivante de sympathie avec les aspirations juives sionistes qui a été soumise au cabinet et approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et aux statuts politiques dont les Juifs disposent dans tout autre pays. Je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Arthur Koestler commentera cette déclaration. En Palestine, une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d'une troisième. En janvier 1919, lors de la conférence de la paix de Paris, sous l'égide de Lawrence, le fameux Lawrence d'Arabie, fut signé l'accord Faisal, fils du shérif Hussein, Weizmann, président du comité sioniste. Accord pour une coopération judéo-arabe pour le développement national juif dans l'État de Palestine, alors occupé par les Anglais, et d'une nation arabe sur la plus grande partie du Moyen-Orient. Faisal avait accepté à la condition que les Britanniques tiennent les promesses d'indépendance faites aux Arabes pendant la guerre. Faisal et les Arabes avaient accepté sans arrière-pensée l'immigration massive des Juifs. Ils pensaient même travailler ensemble pour développer la Palestine. À Jérusalem, le mufti Kamil al-Husayni participa à la pose de la première pierre de l'université hébraïque. Seulement, l'accord ne fut jamais appliqué, car les Britanniques ne respectèrent pas leur promesse d'indépendance. Et puis, les Arabes découvrirent les accords Sykes-Picot, accord entre la France et l'Angleterre pour se partager le Moyen-Orient. Les Britanniques prirent l'Irak et la Palestine, et les Français, le Liban et la Syrie. Tout cela sous l'égide de la Société des Nations. C'est ainsi que fut foulé aux pieds par les Occidentaux le projet du grand État arabe. C'est aussi le moment où se fit la scission entre sionistes et arabes. Pour bien comprendre les intentions des Occidentaux, je vais vous lire ce que Balfour affirma après la signature. Le sionisme s'enracine dans des traditions et des espoirs futurs bien plus importants que les désirs et les préjugés de 700 000 Arabes qui habitent à présent sur cette terre historique. Après, il y eut 1948 et la Nakba, et dans tout l'Occident retentirent les louanges de gens qui avait colonisé un pays et lui avait ôté son nom. La Palestine devint Israël. Israël qui a fait croire au monde qu'avant elle, il n'y avait qu'un désert, que seule elle avait réussi à faire de la Palestine un jardin et un potager grâce à ses irrigations. Et une partie du monde a bien voulu la croire, oubliant que la micro-irrigation était utilisée par les paysans de l'Antiquité, en Afrique du Nord, en Chine, en Iran et dans tout le Moyen-Orient. Oui, les Palestiniens mangeaient les fruits et les légumes de leur jardin avant que ne fût créé Israël. Voici un extrait d'un chant traditionnel palestinien.
طيب سلم لي علي كانوا يحبونا ومثلك مبلاه بالدنيا كلها مثل جمال ما خلق الله نحنا لو بدنا بنت حي الله كنا جمعنا 100 مليون
se termine aujourd'hui sur l'interview du 31 octobre 2023 de Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières et fils de sioniste qui défend les Palestiniens.
Certes des civils, l'armée israélienne, mais qui ne les vise pas délibérément.
Enfin, est-ce que les bombes qui écrasent, on a vu des quartiers entiers aplatis sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là. Je n'entends jamais le fait que l'autre partie a aussi le droit de se défendre. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont la.
Pas à Gaza.
Son puissance occupe. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens. Tout, c'est une prison, comme on l'a dit. C'est une prison qui est en train de devenir un charnier, peu à peu. Mais c'est d'abord une prison. Une prison, elle est sous le contrôle de ses geôliers. Les geôliers sont israéliens. Moi, j'insiste sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Il n'est jamais rappelé. Il est toujours du côté israélien, jamais du côté palestinien.
Daesh, Hamas, Al-Qaïda, même combat.
Et vous,
même
vous êtes
méthode.
D'accord ?
Non. Daesh et Al-Qaïda sont des organisations terroristes qui n'existent que par le terrorisme. Le Hamas est une organisation qui a commis des actes terroristes, qui m'ont sonné, qui m'ont estourbi, qui m'ont choqué profondément.
À ce niveau-là.
Non, parce que lorsqu'on tue des civils en masse, on n'est pas forcément pour autant une organisation terroriste. Sinon, il y aurait beaucoup d'États terroristes. Parmi eux, l'État israélien. Si vous regardez la liste, le nombre de gens qui ont été tués, de Palestiniens qui ont été tués au cours de ces 20 dernières années, c'est par milliers et par milliers. Donc, qui ont été blessés, c'est par dizaines de milliers. Putain, moi, je trouve ça terrible. Combien de milliers de morts supplémentaires va-t-il falloir, de milliers de morts et de dizaines de milliers de blessés, dont un grand nombre vont mourir, dont un grand nombre vont rester mutilés, dont un grand nombre aussi va grandir, je parle notamment des jeunes gens, dans l'idée obsédante de se venger. C'est-à-dire, on fabrique une génération de gens qui n'auront qu'une envie, ce qu'ils verront un Israélien, c'est de le tuer. D'ailleurs, les Gazaouis, depuis 30 ans, ne voient des Israéliens que sous la forme d'hélicoptères d'attaque, de chars d'assaut, de drones, de commandos de forces spéciales. C'est ça l'image qu'ils ont des Israéliens. Il faut absolument arrêter ce massacre, absolument arrêter cette
boucherie. Est-ce que vous faites néanmoins une différence entre le Hamas qui vise délibérément des civils et Israël qui tue certes des civils, l'armée israélienne, mais qui ne les vise pas délibérément?
Enfin, est-ce que les bombes qui écrasent, on a vu des quartiers entiers aplatis sous des milliers de tonnes de bombes. C'est pas, on vise pas une population là. Le président Herzog était avec sa réputation de sage, un petit peu en recul, nous explique que à Gaza il n'y a que des complices des terroristes. Il n'y a pas d'innocents. Je le cite. Alors là, c'est le feu vert à tous les massacres. Le commandant, un colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, disait hier qu'ils s'engagent dans une guerre totale. Là aussi, on fait pas de quartier. Donc, qu'on ne me dise pas que d'un côté, on vise délibérément des civils et que de l'autre, on s'excuse de faire quelques dégâts au passage, mais qu'on vise seulement des méchants. Ça n'est pas la guerre de la lumière contre les ténèbres, la guerre du bien contre le mal, contrairement à ce qui est dit si souvent.
Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM. Thank you.